Les divorcés engagés dans une nouvelle union, les divorcés remariés, peuvent se retrouver, en effet, dans des situations très différentes selon qu'ils ont subi la séparation et le divorce, ou bien que leur première union, à leurs yeux, était clairement invalide, ou bien qu'elle était clairement valide, ou bien que leur deuxième union est peut-être stabilisée, humainement parlant. Les situations sont fort différentes. Les baptisés divorcés remariés civilement, doivent être davantage intégrés dans les communautés chrétiennes selon les diverses façons possibles, en évitant toute occasion de scandale. Ce qui est là, ce que l'Église dit toujours. Hein. La logique de l'intégration, puisque c'est une pastorale d'intégration, est la clé. La logique de l'intégration est la clé de leur accompagnement pastoral, afin que non seulement ils sachent qu'ils appartiennent à l'Église, mais qu'ils puissent en avoir une joyeuse et féconde expérience. On ne doit pas attendre du synode. On ne devait pas attendre du synode. Et on ne doit pas attendre de cette exhortation une nouvelle législation générale. Il faut seulement un nouvel encouragement au discernement responsable, personnel et pastoral des cas particuliers. Encouragement au discernement particulier, donc, ajusté. Qui devrait reconnaître que, étant donné le degré de responsabilité n'est pas le même dans tous les cas, puisqu'il y a plusieurs cas différents, chaque cas est d'ailleurs différent, le degré de responsabilité n'étant pas le même dans tous les cas, les conséquences ou les effets d'une norme, la loi de l'Église, ne doivent pas nécessairement être toujours les mêmes. Il faut faire un examen de conscience avec les divorcés remariés grâce à des moments de réflexion et de repentir en privé, posant des questions comme est-ce qu'il y a eu des tentatives de réconciliation ? Quelles conséquences la nouvelle relation a-t-elle sur le reste de la famille ? Quelles conséquences elle a sur les enfants ou sur les jeunes ? Il s'agit d'établir et de suivre un tel itinéraire d'accompagnement et de discernement qui oriente ses fidèles à la prise de conscience de leur situation devant Dieu. Prendre conscience de sa situation devant Dieu. Les aider à cela. Étant donné que dans la loi elle-même, il n'y a pas de gradualité, ce discernement pastoral, individuel, par le prêtre, ce discernement ne pourra jamais s'exonérer, donc se dispenser, des exigences de vérité et de charité de l'Évangile proposé par l'Église, de sorte d'éviter le grave risque de messages erronés, par exemple l'idée qu'un prêtre peut concéder rapidement des exceptions, ou autre message erroné, qu'il existe des personnes qui peuvent obtenir des privilèges sacramentaux en échange de faveurs. Un pasteur qui sait reconnaître la gravité de la question qui se trouve entre ses mains évite le risque qu'un discernement donné particulier conduise à penser que l'Église entretient une double morale. L'application, ce que veut dire le souverain pontife, c'est que l'application concrète à un cas particulier devra éviter le scandale et éviter aussi que on dise, on étant toujours bavard, l'Église elle a une Église à deux vitesses, quoi. Paragraphe suivant, le plus difficile, celui qui a le plus, qui pose le plus de questions. Les circonstances atténuantes dans le discernement pastoral. C'est le titre de ce paragraphe. Les circonstances atténuantes. L'Église a une solide réflexion sur les conditionnements et les circonstances atténuantes. Et là, une réflexion là-dessus. Par conséquent, il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite irrégulière, entre guillemets, vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Ce n'est plus possible de dire cela. Les limites n'ont pas à voir uniquement avec une éventuelle méconnaissance de la norme, c'est-à-dire
« Ah ben je ne le savais pas »,
mais il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas d'ignorance. Un sujet, une personne, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les valeurs comprises dans la norme. Citation du catéchisme de l'Église catholique, qui, dit le pape, s'exprime clairement. Citation. La responsabilité d'une action peut être diminuée, voire supprimée, par l'ignorance, donc il ne s'agit pas d'ignorance, l'inadvertance, la violence, la crainte, les habitudes, les affections immodérées et d'autres facteurs psychiques ou sociaux. Citation toujours du catéchisme de l'Église catholique, mais quelques lignes après. L'immaturité affective, la force des habitudes contractées, l'état d'angoisse ou d'autres facteurs psychiques ou sociaux. Fin de citation. Et donc le souverain pontife utilise cet argument, s'appuie là-dessus. À partir de la reconnaissance du poids des conditionnements concrets qu'il vient d'évoquer, nous pouvons ajouter que la conscience des personnes doit être mieux prise en compte dans la praxis de l'Église. Évidemment, il faut encourager la maturation d'une conscience éclairée, formée et accompagnée, mais la conscience peut reconnaître sincèrement et honnêtement, dans certains cas en tout cas, que, pour le moment, la réponse généreuse qu'on peut donner à Dieu, c'est celle-là, et découvrir avec une certaine assurance morale que cette réponse, c'est le don de soi que Dieu lui-même demande au milieu de la complexité concrète des limitations, c'est-à-dire en clair, je fais ce que je peux, et je fais tout ce que je peux, mais obéir complètement, je ne peux pas. De toute manière, souvenons-nous que ce discernement, donc le prêtre peut accompagner et approuver ça. En tout cas, la conscience peut le faire. Sachant que ce discernement doit être dynamique et demeurer toujours ouvert à de nouvelles étapes de croissance pour permettre que l'idéal se réalise pleinement. Numéro 305 de l'exhortation. Par conséquent, un pasteur ne peut se sentir satisfait en appliquant seulement les lois morales à ceux qui vivent des situations irrégulières, comme si elles étaient des pierres qui sont lancées à la vie des personnes. C'est le cas des cœurs fermés qui se cachent ordinairement derrière les enseignements de l'Église pour s'asseoir, citation de l'Écriture, pour s'asseoir sur la cathèdre de Moïse et juger, quelquefois avec supériorité et superficialité, les cas difficiles et les familles blessées. La conclusion, à cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, il est possible que dans une situation objective de péché, les divorcés remariés bien installés, qui n'est pas subjectivement imputable, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas entièrement responsables ou pas pleinement, il est possible de vivre dans la grâce de Dieu, qu'on puisse aimer et qu'on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité, en recevant à cet effet l'aide de l'Église. Point. Note 351, que le pape rédige lui-même, note 351 qui éclaire cette l'aide de l'Église, qu'est-ce que c'est ? Dans certains cas, il peut s'agir aussi de l'aide des sacrements. Confession, communion. Vous avez compris que là, c'est une difficulté, c'est the point qui fait problème. Le pape continue ensuite, je ne vais pas prolonger trop, mais En croyant que tout est blanc ou noir, nous fermons parfois le chemin de la grâce et de la croissance. Rappelons-nous qu'un petit pas au milieu des grandes limites humaines peut être plus apprécié de Dieu que la vie extérieurement correcte de celui qui passe ses jours sans avoir à affronter d'importantes difficultés. Le pape ensuite continuera, mais je vais m'arrêter là parce que il est trop tard, en insistant sur le fait qu'il ne faut pas interpréter ces paroles de manière déviante. D'aucune manière, l'Église ne doit renoncer à proposer l'idéal complet du mariage, le projet de Dieu dans toute sa grandeur, la tiédeur, toute forme de relativisme ou un respect excessif quand il s'agit de le proposer serait un manque de fidélité à l'Évangile et également un manque d'amour de l'Église envers ses jeunes eux-mêmes. Comprendre les situations exceptionnelles n'implique jamais d'occulter la lumière de l'idéal dans son intégralité, etc. Donc, il rappelle un certain nombre de principes, mais dit qu'il faut parfois que l'Église court le risque de se salir avec la boue de la route, comme il dit. Il faut sortir de nos abris personnels, un peu confortables, que constituent les positionnements théoriques et exclusivement doctrinaux. Nous nous comportons fréquemment comme des contrôleurs de la grâce et non comme des facilitateurs. Puis suit quelques mots sur la spiritualité familiale qui n'a plus rien à voir avec cette question, brûlante, hein. Et donc que je peux résumer en disant qu'il faut prier ensemble. La spiritualité de l'amour exclusif inclut la croix, donc il y a la prière, il y a la croix dans la famille, et il y a une charité fraternelle évidente. C'est la loi de la famille, l'amour mutuel, la charité fraternelle. Voilà un peu condensé, et c'était peut-être un peu laborieux, veuillez m'excuser, ce qu'il dit dans ce document, qui n'est pas une encyclique, qui n'est pas non plus un document anodin, c'est un acte du magistère. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, et une qui a été relevée de manière très particulière. Alors, j'en parlerai un peu, mais avez-vous